Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h25 et ce soir dans le débat du Club des Idées, faut-il interdire les voitures hybrides qui séduisent de plus en plus les Français ? Une grande étude révèle en effet que les véhicules hybrides rechargeables consomment en réalité 2 à 4 fois plus qu'annoncé par les constructeurs. Alors on va vous expliquer pourquoi, car tout dépend de la manière dont nous roulons. Mais cela pose quand même la question de l'avenir des hybrides. Les Britanniques, par exemple, ont décidé de les interdire à partir de 2035 pour passer, disent-ils, au tout électrique. On en parle donc ce soir avec nos invités. François Roudier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des comités des constructeurs automobiles français. Avec Éric Champardeau, bonsoir. Vous êtes spécialiste du marché automobile et cofondateur de C-Ways.
Bonsoir.
Et avec Diane Strauss, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale France de l'ONG Transport et Environnement qui a réalisé l'une de ses études sur les véhicules hybride rechargeable. Alors peut-être d'abord rappelons tout simplement le fonctionnement d'une voiture hybride rechargeable. Je ne sais pas qui veut commencer, François Roudier par exemple. C'est donc un véhicule qui allie moteur électrique et thermique, on met de l'essence d'un côté et on recharge sa batterie de l'autre.
Alors oui, c'est-à-dire par rapport à l'hybride première génération hein, qui avait été inventé d'ailleurs par les Japonais hein, pour des raisons d'indépendance énergétique où tout fonctionnait en même temps, l'hybride rechargeable a été conçu comme une voiture électrique avec un appoint de moteur thermique pour pallier le manque d'autonomie.
Donc grosso modo, quand on roule jusqu'à 50 ou 70 km/h, on est en tout électrique. Et au-delà, on passe en thermique avec une limite évidemment de distance. Parce qu'après une soixantaine de kilomètres, ça dépend des modèles, la batterie est vide. Et donc on passe de fait à l'essence à nouveau. J'ai à peu près résumé correctement ?
Ouais, c'est pas tout à fait ça. Parce que
Éric Champardeau.
Avec l'énergie cinétique, dans les descentes et au ralentissement, on recharge la batterie.
Oui.
C'est un peu plus que ça. Hein.
Mais on la recharge pas très vite quand même. Il y a un moment, il faut quand même brancher.
Moins vite que quand on la branche. L'essentiel, c'est de la brancher, effectivement.
Bien. Et ça marche très très fort en France. Les chiffres explosent. L'an dernier, il s'en est vendu plus de 130 000 voitures hybrides, soit 6% du marché. Et cette année, s'annonce record avec déjà 45 000 voitures hybrides vendues, ce qui représente 3 fois plus que l'an dernier. Diane Strauss, c'est un succès immense, les voitures hybrides rechargeables.
Oui, en effet, les ventes d'hybrides rechargeables ont dépassé les ventes de voitures électriques. Et voilà. Et donc nous, c'est vrai qu'on voit deux problèmes à cette voiture hybride rechargeable. Le premier, c'est que les tests d'homologation qui sont faits en laboratoire sous-estiment de façon très importante les émissions de CO2 de ces voitures.
Oui.
Et quand on les conduit en conditions réelles, en réalité, les véhicules hybrides rechargeables polluent beaucoup plus. Donc voilà, ça dépend de la façon dont on les conduit, mais quand même dans un grand nombre de conditions. Les émissions annoncées sont sous-estimées. Le deuxième problème, qui est lié au premier, c'est que les constructeurs, pour remplir leurs obligations légales envers le climat, ont été incités à vendre ces véhicules à l'affichage CO2 assez faible, surtout à des entreprises qui sont intéressées d'avoir des véhicules à faible émission.
Oui.
Voilà, donc il y a un faisceau d'incitations qui font que on vend beaucoup de véhicules hybrides rechargeables et pas forcément à des personnes qui vont en avoir l'usage.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites et puis après, on va rentrer dans le détail du débat. C'est vrai qu'il y a des nouvelles règles européennes qui ont été appliquées à l'ensemble des constructeurs avec un objectif qui est que d'ici à 2025, l'idée est de faire baisser les flottes des constructeurs, tous véhicules confondus, mais marque par marque, les émissions de 15% par rapport à 2021. Et d'ici 2030, la réduction est de 31%. C'est cela ?
Oui, c'est ça, tout à fait, les objectifs européens.
Donc ça force les constructeurs à verdir leurs véhicules ?
Ah, ça les oblige complètement. Si on n'avance pas dans l'électrique, s'ils n'avancent pas dans l'électrique à marche forcée, ils payent des amendes qui effacent complètement les profits réalisés par ailleurs.
Oui.
Ils ne peuvent plus investir et développer des véhicules électriques, par exemple.
Bon. On a tout compris aux véhicules hybrides rechargeables. On a tout compris à la problématique. On marque une première pause et puis on en parle dans quelques secondes. Vous restez avec nous, 19h29.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat du Club des Idées. Et ce soir, cette question. Faut-il interdire les voitures hybrides qui séduisent de plus en plus les Français ? Pourquoi ? Car une grande étude révèle, plusieurs grandes études même révèlent, que ces véhicules consommeraient en réalité beaucoup plus et émettraient en réalité beaucoup plus de CO2 que ce qu'affichent les constructeurs. Avant de vous entendre les uns et les autres, je voudrais d'abord, c'est l'une des particularités d'Europe Soir dans les débats, vous faire partager une petite archive. Quand l'histoire éclaire le présent, c'était en 1996, le 25 juin.
Sous le capot, deux moteurs. À gauche, l'électrique. À droite, l'essence. François Ordonneau, à la direction de la recherche chez Renault.
Les deux moteurs peuvent travailler simultanément. pour les forts besoins de puissance, les dépassements, les côtes, mais peuvent travailler aussi séparément, et notamment en ville, où vous retrouvez l'utilisation sans pollution.
Avec ce mode hybride, le conducteur n'est plus prisonnier de l'autonomie réduite de ses batteries. Inconvénient, le prix, pour l'instant 160 000 francs, et des batteries qui pèsent encore 235 kg.
Bon, évidemment, aujourd'hui, 24 ans après, ça coûte un peu moins cher. Il y a toute une gamme de véhicules pour les hybrides rechargeables. Ça va de 30 000 à peu près pour une Renault Captur, à 45 000 euros pour une BMW SUV, 54 000 euros pour une DS7. Ça coûte quand même relativement cher, mais la promesse, c'est de consommer effectivement moins d'essence, moins de carburant et de moins polluer. Et c'est là qu'il y a un hic. Il y a un hic, François Roudier, car Diane Strauss nous le disait, de l'ONG Transport et Environnement, sur les modèles qui ont été testés, les seuils annoncés par les marques sont dépassés de 28 à 89% en matière d'émissions de CO2. On nous ment ? Les constructeurs nous mentent ?
Alors sur les modèles testés, ce ne sont pas des modèles français. Hein, donc on n'a pas l'expérience réelle et surtout le retour client, qui est très important hein, dans l'utilisation. Nous, ce qu'on a vu sur l'utilisation...
Si vous permettez, sur le retour client, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis allé voir des forums cet après-midi. Et il y a plein de gens qui disent, effectivement, alors pour certains modèles, hein, je ne sais pas si c'est les Français ou les étrangers, mais on est un peu déçus parce qu'on se rend compte que ça consomme beaucoup plus. Pourquoi ça consomme beaucoup plus ? Parce que seuls 37% des trajets se font en tout électrique aujourd'hui. Parce que les gens, évidemment, sortent des villes, sortent des villages, ils ont besoin de rouler à vive allure, un peu plus longtemps que ce que le permet le moteur électrique. Et l'électrique, ça pèse lourd, c'est ça ? Ça pèse un peu plus de 200 à 300 kilos par véhicule, donc le véhicule est plus lourd, donc il consomme plus d'essence quand il passe en thermique.
Alors,
donc il y a des déceptions, c'est ce que je voulais vous dire.
Oui, il y a des déceptions, mais les vendeurs doivent faire attention à qui ils vendent un hybride rechargeable. Et ça, je sais que c'est même d'ailleurs chez Mitsubishi, qui est un des premiers avec l'Outlander, où il y a tout un système pour bien comprendre comment va vivre le client. Je ne parle pas des entreprises, c'est un point différent. L'hybride rechargeable, il faut comprendre que c'est d'abord un véhicule électrique, avec en appoint un moteur thermique. Donc, il n'est pas fait pour rouler à 100% du temps sur le moteur thermique. Et surtout qu'en plus, vous avez souvent des réservoirs qui sont plus petits.
Oui. Hein.
Donc, dans les tests sur les véhicules français que nous avons, que ce soit les Captur Renault ou les 3008 hybrides chez Peugeot, on voit que l'essentiel roule sur l'électrique.
Vous êtes d'accord pour dire que si on a un gros rouleur et qu'on sort des villes, l'hybride, ce n'est pas fait pour nous ?
Pas du tout. Pas du tout.
Diane Strauss.
En fait, ce que montrent nos tests, c'est que même si vous êtes dans des conditions optimales de conduite, c'est-à-dire que vous roulez sur une route plane, etc., vous pouvez dépasser les seuils d'émission. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la puissance du moteur électrique est très faible. Et du coup, quand vous devez accélérer, quand vous avez un coffre chargé, quand vous mettez la clim, quand vous
avez
le chauffage, oui, le moteur thermique prend le relais.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que si vous voulez l'expérience utilisateur, c'est vous conduisez en mode électrique et puis tout d'un coup, vous entendez le moteur thermique qui se met en marche.
Oui.
Et en fait, c'est parce que vous avez accéléré.
Ouais. Éric Champarneau.
On a des hétérogénéités d'usage qui sont très, très importantes avec les automobiles. Et on fait toujours un bilan d'une technologie par rapport à l'ensemble des usages. Ça dysfonctionne. Les tests, les protocoles de tests sont effectivement sous-estimés bien souvent par rapport à certaines situations. Mais quand on prend de la vraie expérience de roulage, on va dans certains cas aussi augmenter. Aujourd'hui, on observe juste que l'aller-retour pour aller au boulot, c'est 24 minutes, c'est 34 km. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a une niche incroyablement grande de gens qui pourraient faire les allers-retours simplement domicile-travail, ça ferait des économies énormes.
Oui.
Et effectivement, quand ils vont partir au ski, quand on pourra, ou en vacances, on va consommer plus, mais le bilan annuel reste positif.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au ski, vous savez que c'est moins de 8% des Français en moyenne. Mais il y a quand même, voilà, le chiffre est là, seuls 37% des trajets se font en tout électrique.
C'est mieux que rien, première chose. Si c'était fait à 100% en thermique, ça consommerait un peu plus. Et encore une fois, effectivement, je ne disconviens pas qu'il y a des roulages pour lesquels il ne faut pas avoir un plug-in hybride, mais pour l'essentiel, ça apporte une économie.
Alors j'ai une question à vous poser quand même, François Roudier, parce que vous me dites, attention, ces véhicules-là, ils ne sont pas faits forcément pour tout le monde, les véhicules hybrides, et ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Mais alors à ce moment-là, pourquoi faire des énormes 4x4 qui sont faits pour aller sur l'autoroute, qui peuvent aller jusqu'à 250 km/h ? en hybride rechargeable.
Bah écoutez, c'est, les Français n'en ont pas. Les voitures les plus grosses sont plutôt des familiales, comme les, ouais. les 5 minutes. Et ils ne sont pas 4x4.
Vous achetez un X3 en BM.
Je ne représente pas BMW. Désolé, je ne suis pas industrie allemande.
Enlevez votre casquette.
Non, alors après, pour défendre nos amis européens, c'est qu'effectivement, les objectifs de CO2 étaient tels que de toute façon, on ne pouvait plus le faire en moteur thermique. Donc, sur certains types de véhicules, ils ont décidé de passer en hybride ou en hybride rechargeable. Ça n'a pas été un succès pour tous. Il y a eu des marques qui ont lancé des modèles et qui ont été arrêtés.
Mais pour tous les gens qui nous écoutent, là, vous leur dites quoi ? Vous leur dites, on peut quand même s'acheter un... Parce que les ventes explosent, donc il y a une envie des Français d'aller vers ce type de
technologie. Les ventes explosent en électrique et en hybride rechargeable. Mais attention, sur la France, d'abord, on va voir l'utilisation, parce que l'année dernière, c'était quasiment rien, l'hybride rechargeable, il n'y avait même pas de modèle. Là, maintenant, on a des modèles qui correspondent aux besoins des Français et qui correspondent au trajet des Français, comme le dit M. Champarneau. C'est du trajet, travail, maison.
Mais est-ce que c'est normal, Diane Strauss, qu'on subventionne des véhicules s'ils polluent évidemment moins qu'une voiture thermique, on est d'accord là-dessus quand même, ça pollue moins.
On n'est pas tout à fait d'accord, ça dépend
de
l'usage.
On n'est pas d'accord là-dessus. Ah bon.
Si vous l'utilisez en mode thermique seulement, comme ça arrive pour beaucoup de gens, vous pouvez polluer jusqu'à ce que montrent nos études, c'est que vous pouvez polluer jusqu'à 8 fois plus.
Par exemple, pour les voitures de société, c'est-à-dire pour les gens qui font beaucoup de transport.
Et qui ont une carte carburant, donc qui remettent du carburant dans leur réservoir. S'ils roulent qu'en mode thermique, dans ce cas-là, ça pollue plus qu'un véhicule conventionnel.
Donc vous dites que ce n'est pas normal qu'ils bénéficient d'un bonus écolo.
Oui, on est opposé à ce bonus, oui. En effet, on pense qu'il faut l'arrêter. Par contre, il faut aussi que si jamais il y a des aides pour que les personnes, les employés d'entreprise aient ces véhicules, parce que ça les arrange, parce que c'est vraiment un secteur de niche, hein, comme on a compris, pour que cette niche, il faut qu'il y ait des conditions très strictes, notamment qu'ils aient une prise chez eux.
Vous réagissez dans quelques secondes, Éric Champarneau. On marque une seconde pause, 19h40, et on se retrouve avec nos invités pour parler de ces véhicules hybrides. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on s'intéresse ce soir aux véhicules hybrides et à cette grande étude qui révèle que les véhicules hybrides rechargeables consommeraient en réalité 2 à 4 fois plus qu'annoncé par les constructeurs. On en parle donc ce soir avec nos invités. Alors, je voudrais vous faire écouter une autre archive. Et puis après, on en parle, sur un scandale qui a fait sensation, c'était il y a 5 ans, le scandale américain de Volkswagen.
Pierre, vous nous parlez de cette affaire Volkswagen aux États-Unis.
C'est une affaire catastrophique. Un logiciel aurait été installé dans très exactement 482 000 véhicules vendus depuis 2008 aux États-Unis. Un logiciel qui prévenait non pas le conducteur, mais la voiture. À quel moment elle serait soumise à un test anti-pollution ? Autrement dit, quand le test avait lieu, eh bien, la voiture en interne, dans son moteur, si vous voulez, enclenchait une sorte de mécanisme qui coupait les gaz polluants.
Ah oui, donc ils étaient assurés de passer au test anti-pollution.
Et une fois le certificat de bonne conduite écologique décerné, eh bien, le conducteur repartait et la voiture remettait en marche le système normal, alors que visiblement, eh bien, ces modèles pouvaient émettre une quantité d'oxyde d'azote jusqu'à 40 fois supérieure aux normes.
Voilà, je ne dis pas que les constructeurs sont des vilains, mais quand même, il y a eu des tours de passe-passe dans le passé autour de scandales comme celui de Volkswagen, celui du Dieselgate. Je veux dire, il y en a eu un certain nombre. Éric Champarneau, on n'est pas face au même type de problématique avec les véhicules hybrides, là ?
Absolument, on est sûr ? Absolument pas. Et d'ailleurs, je pense que personne ne conteste les calculs de personne, parce qu'ils sont faits de façon très très sérieuse.
C'est vraiment en fonction de la conduite, alors.
Exactement, et c'est tout à fait ça. Quel roulage vous allez avoir ? Il va falloir éco-conduire, rouler raisonnablement, et bien sûr, il va falloir brancher la voiture. Si vous ne branchez pas un frigo, vous ne rafraîchirez pas vos aliments. Et le véhicule électrique, c'est pareil. Il y a des pays, la Chine, je crois, où il faut prouver qu'on a un accès à la prise pour acheter un véhicule électrique qui se branche. Il y a des solutions. Il faut peut-être un peu contrôler, mais ça reste une bonne solution.
Diane Strauss, de l'ONG Transport et Environnement, donc.
Il n'y a pas de volonté de tromper, mais il y a clairement un futur scandale d'émissions dans le sens où on a des affichages CO2 qui sous-estiment grandement la réalité et que les émissions ont lieu sur la route en réel et qui contribuent au changement climatique. Donc il y a quand même un vrai problème. Le cœur du problème, c'est les tests. Et ces tests, on peut être homologués, c'est des tests très problématiques. On fait rouler une voiture sur un tapis et on considère qu'on peut considérer que ces résultats de tests sont réels, sont comparables à une conduite réelle.
Donc qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui nous écoutent là et qui étaient peut-être dans l'idée, beaucoup de Français, de se convertir à l'hybride en se disant je vais faire un petit geste pour la planète et je vais consommer moins. Ça veut dire qu'il ne faut pas en acheter ?
Acheter de l'électrique.
Ah oui. Oui, mais ça pose un problème d'autonomie, l'électrique, parce que les véhicules qui sont accessibles à des niveaux de tarifs qui sont accessibles ou équivalents à des hybrides, on ne peut pas faire, je crois, plus de 200 km. C'est ça, à peu près, la moyenne de l'autonomie.
On arrive jusqu'à 350. Pour les trajets quotidiens, ça joue le même rôle qu'un hybride.
Oui.
Voilà. Et après, pour partir en vacances, c'est vrai qu'il faut adapter son trajet.
Voilà, il faut prévoir deux jours pour partir en vacances.
Voilà.
Éric Champardon.
Oui, mais c'est très très bien effectivement d'aller en électrique, mais on ne peut pas basculer vite, massivement, instantanément, tous en électrique. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait du trait d'union entre le thermique et l'électrique dans certaines conditions?
Alors, il y a quand même un truc qui se passe partout dans le monde, hein. On n'est pas les seuls à nous interroger là-dessus. Le gouvernement britannique, je le disais tout à l'heure, annonce une interdiction des véhicules thermiques à essence, donc en 2030, et hybride en 2035. En Norvège, les thermiques seront carrément interdits dans 4 ans. Ils vont très très vite, les Norvégiens. Idem au Japon, qui vise 100% d'électrique en 2035. En France, l'interdiction des véhicules thermiques, c'est 2040. Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu à la traîne, François Roudier? Vous êtes porte-parole des comités des constructeurs automobiles français. Et est-ce que ça ne serait pas aussi un positionnement stratégique intéressant pour notre industrie, pour nos emplois, d'aller plus vite que les autres sur les véhicules tout électriques? Parce que c'est l'avenir.
Ouais, il ne faut pas non plus tourner dans la précipitation. Vous savez, il y a quand même un élément essentiel dans toute cette opération, c'est le client. Et faire comprendre à des gens que l'électrique, c'est intéressant, leur faire comprendre qu'ils n'ont peut-être pas tout le temps besoin de 400 km d'autonomie, qui ne font pas Lille-Marseille toutes les semaines, c'est pas évident. C'est pas évident, hein.
Parce qu'en fait, c'est une vue de l'esprit. On se dit qu'on va être prisonnier d'une distance avec un tout électrique, alors qu'en réalité, quand on regarde la moyenne des trajets quotidiens, c'est moins de 10 km dans 90% des trajets.
Mais exactement. Et très souvent, les électriques sont la deuxième voiture dans un ménage.
Oui.
Donc vous avez une autre voiture pour aller plus loin. Non, on est d'abord aussi sur une question de prix. L'électrique reste cher. On n'est pas encore dans des économies d'échelle qui permettent d'en descendre le prix. Donc
c'est quoi les gammes de prix à peu près en électrique?
Vous arrivez quasiment à 40, jusqu'à 40% de plus que la version thermique.
D'accord.
Hein, et je ne vous parle pas des véhicules de luxe qui sont encore plus cher. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il faut habituer et faire comprendre. Je dois vous dire qu'on est quand même surpris de voir l'appétence qu'il y a eu cette année sur l'électrique et puis sur l'hybride rechargeable. Alors, l'hybride rechargeable, c'est simple, parce qu'il n'y avait quasiment pas de modèles. Il y en avait deux ou trois. Et là, on a eu plusieurs types de modèles. Et l'électrique est passé à 7% du marché maintenant sur 11 mois. L'année dernière, on n'atteignait pas les 2%. On était à 1,9%.
7% du marché.
On est à 7%.
6,2% exactement sur 11 mois. 7%, c'est le mois de novembre. 7%, c'est le mois de novembre.
On est d'accord, l'électrique, c'est l'avenir. De toute façon, dans 20, 30 ans, ça mettra le temps que ça prendra, mais on roulera tous en électrique.
Bah, il semblerait que ce soit bien parti, oui. Bien parti.
Et les Français sont bien positionnés sur le segment?
Je pense que déjà, il faut modérer quelque chose. C'est qu'on roulera tous en électrique, mais qu'il faut quand même plus de sobriété pour arriver à
arriver. Ça veut dire quoi, moins rouler? Utiliser moins sa voiture?
En ville, je pense qu'on ira vers des systèmes où il y aura moins de voitures particulières, aura plus de systèmes partagés, mais ce sera de la mobilité électrique, mais pas la mobilité qu'on connaît aujourd'hui. Quand on vivra en milieu rural, on aura probablement un véhicule particulier qui sera électrique et qui nous permettra de faire ces voyages.
La clé, c'est aussi qu'il y ait des bornes de recharge partout. C'est ça la clé.
C'est le principal contre-argument actuellement. La seule chose que nous opposent les clients, c'est où est-ce que je me charge.
Oui.
Donc là le dossier est vraiment dans les mains des pouvoirs publics sur les infrastructures. Il est critique.
Toujours un paradoxe. Hein. On nous dit acheter des électriques et en même temps, la France n'est pas outillée.
Oui, mais ça va vite. Hein. Dans les plans de relance, notamment, on a aujourd'hui un peu plus de 30 000 bornes de recharge enregistrées. 100 000 à fin 2021. Donc ça va tripler.
Et puis il y a la voiture à hydrogène dans le plan de relance, puisqu'on nous a dit que l'hydrogène, c'était l'avenir.
Ce sera pour un peu plus tard.
Ça passera d'abord par les trains et d'autres.
Merci à tous les trois d'avoir débattu avec moi sur ces véhicules hybrides et puis d'avoir vu un peu plus loin avec les véhicules électriques. Je vais vous faire écouter un petit son, tiens, vous allez me dire si vous reconnaissez. Pas facile, de quoi s'agit-il? Si vous êtes des joueurs de jeux vidéo, vous avez peut-être reconnu. C'est le son de la toute première PlayStation.
Mais oui.
La PlayStation. Vous savez que c'était il y a 26 ans, en 1994. C'est déjà loin, ça ne rajeunit pas. Hein. Eh bien, on en parle dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. A tout de suite.